Chapitre 9. Une semaine s'était écoulée depuis ce petit événement. Juliette, sans avoir recouvré sa gaieté habituelle, se montrait moins sauvage. Elle avait de longues conversations avec M. Benesto. Il lui posait une foule de questions. Il s'intéressait à elle avec bonté. Elle avait déjà des idées arrêtées. Il s'efforçait de les combattre, sans heurter la fillette. Quant à Mme Chevas, son caractère devenait de plus en plus difficile. À l'entendre, il y avait peu de femmes qui auraient négligé leur intérieur comme elle l'avait fait par dévouement. À la vérité, elle avait cru à une récompense immédiate. Elle avait cru que le soir même du jour où elle avait transporté ses effets personnels, son geste allait provoquer l'admiration dans tout le quartier. Or, il ne s'était rien passé. M. Benesto n'avait pas parlé de lui faire un présent somptueux. Et ce qui était plus grave, on lui avait répété qu'il avait demandé ce qu'elle gagnait quand elle était placée. Il croyait donc qu'un servi de ce genre s'estimait comme les gages d'une femme de chambre ou d'une cuisinière. Déjà, à différentes reprises, elle lui avait fait comprendre qu'elle ne pourrait pas sacrifier indéfiniment son foyer. Elle avait ses habitudes. D'autre part, son fils devait arriver en permission. Malgré la meilleure volonté, il lui serait difficile alors de rester. Un après-midi, Juliette et Monsieur Sesto se trouvèrent seuls. « Viens t'asseoir dans mon bureau, ma petite. Tu dessineras pendant que j'écrirai. Je vais te donner tout ce qu'il te faut. » Charles tira d'une armoire une boîte de crayons de couleur, un bloc de papier qu'il avait acheté le matin même. « Installe-toi à cette table. Est-ce que tu vois assez clair ?» Juliette ne répondit pas. M. Benesto devina que l'enfant n'avait pas compris sa question, qu'elle ne s'expliquait pas comment on pouvait la lui poser en plein jour. Il n'insista pas. Il lui apporta un coussin pour que le siège fût assez haut. Pendant qu'il s'affairait, il observait Juliette. Elle se tenait immobile près de la porte, et quand elle croyait qu'on ne la voyait pas, elle jetait des regards curieux sur les livres, sur les objets de cette pièce où elle venait de rentrer pour la première fois. Il y avait une heure à peine, Madame Chevas lui avait lavé les cheveux. Des mèches encore humides pendaient sur ses tempes. « Allez, assieds-toi, voici le papier, voici les crayons, voici le modèle, » dit Charles en montrant un vase de fleurs. « Tu n'auras qu'à le copier. » Juliette s'avança craintivement, s'assit sur la chaise que lui avait préparée M. Benesto et ne bougea plus. Il fallut encore que celui-ci lui mit un crayon entre les doigts, qu'il dirigea cette main pour tracer un premier trait. « Voyons, ma petite, pourquoi ne veux-tu pas t'amuser ?» Elle ne répondit pas que c'était parce qu'elle voulait voir sa mère, bien qu'elle le pensât, car malgré son âge, elle était déjà pleine de prudence. Elle haussa simplement les épaules pour dire, comme lui fait un vieillard, que sa réponse, quelle qu'elle fût, n'aurait aucune importance. « Mais il faut te distraire. Tu dois pas rester toute une journée à ne rien faire. » Cette fois, elle promena le crayon sur la feuille de papier, mais comme lui fait un aveugle, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Si bien que la feuille fut rapidement couverte de traits enchevêtrés. Bien qu'il se fût attablé pour écrire, Charles ne quittait pas Juliette des yeux. Il ne comprenait pas comment elle ne souffrait pas davantage. Ah, si le malheur qui frappait cet enfant l'avait frappé lui, ne serait-il pas devenu fou? Et Juliette, sans dire un mot, avait accepté d'habiter chez lui. Elle ne pleurait pas. Elle semblait presque normale. « Tu sais, mon enfant, quand tu seras grande, quand tu auras une famille à toi, tu verras comme tu seras heureuse, car la vie ne commence vraiment que plus tard. Pour le moment, tu n'es qu'une petite fille. » Aucune parole ne semblait pénétrer dans l'âme de Juliette. Elle continuait à noircir une feuille de papier, et Charles se rendit compte qu'il allait avoir autant de mal à lui faire lâcher son crayon qu'il en avait eu à le lui faire prendre. « Tu veux peut-être que nous allions nous promener avec Madame Chevas quand elle rentrera ?» Cette fois, elle détourna la tête. « Non. Tu n'aimes pas Madame Chevas ? Non. Et moi, est-ce que tu m'aimes ? Non. Mais pourtant, je t'aime beaucoup, moi. » Elle garda le silence. Durant un long instant, ses yeux demeurèrent fixés devant elle. Elle continuait à crayonner, mais plus lentement. Soudain, elle se retourna, se leva, regarda Charles en face, très peu de temps, juste quelques secondes. Puis, sans quitter sa place, comme si malgré sa douleur elle n'oubliait pas qu'elle n'était pas chez elle, elle baissa la tête, se cacha le visage dans ses mains. Elle sanglotait. « Mais qu'est-ce que tu as, ma petite ?» dit Charles en s'approchant, en essayant en vain de lui dégager le visage. À ce moment, Madame Chevas entra dans la pièce. Elle avait une clé. Charles ne l'avait pas entendu venir. « Ah, vous voilà de retour, Madame Chevas !» Elle portait un filet d'approvisions qu'elle posa à ses pieds. Il s'affaissa et une pomme de terre roula sur le parquet. « Ah, elle pleure encore !» dit-elle en montrant Juliette. « Pourquoi ? Elle avait déjà pleuré ?»« Elle passe son temps à pleurer. Vous prenez donc pas cette pauvre petite, vous ne la comprenez donc pas ?»« Et puis, tenez, j'en ai assez. Oh, je pourrais pas rester plus longtemps. Je viens encore vous rendre service ce soir. Mon fils est arrivé en permission à midi. Il a droit, lui aussi, qu'on s'occupe de lui. » Ceux qui font leur devoir n'aiment pas payer pour les autres. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Madame Chevas. Quand on vient en permission, il est naturel qu'on soit exigeant. Monsieur Benestot, j'ai à vous parler. Il y a longtemps, d'ailleurs, que j'ai à vous parler. Madame Chevas regarda Juliette. Elle pleure pas, la comédienne. Elle nous écoute. Alors, va dans ta chambre. Et ferme la porte. » Lorsque l'enfant fut parti, Madame Chevas demanda la permission de s'asseoir d'une telle façon qu'il semblait qu'elle ne se fût plus assise depuis son installation chez M. Benestou. « Je vous en prie, Madame Chevas. » Elle commença à respirer profondément à plusieurs reprises, puis dit « Monsieur, vous comprenez, il ne faut pas non plus obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais, madame, personne n'y songe. Oh, ce n'est pas de moi que je parle. Je n'ai jamais parlé de moi, d'ailleurs. Vous pouvez vous renseigner auprès de tous ceux qui me connaissent, auprès de mes ennemis même. Tout le monde vous dira que s'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres, il n'a jamais marchandé sa peine, c'est bien moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je changerai. J'ai vécu, vous savez. J'ai souffert. Je vous ai dit que mon mari avait été tué au début de la guerre. Oui, vous me l'avez dit. Eh bien, croyez-vous que si on ne m'avait pas estimé, si on n'avait pas su qui j'étais, tous les camarades de mon mari, toute sa section, vous m'entendez, se seraient cotisés comme ils l'ont fait. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits. Il a fallu que chacun ouvre sa bourse. Il aurait été bien reçu, celui qui aurait voulu payer sa part avec des mots. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas moi que je pensais quand je vous disais qu'il ne faut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. C'était la petite, monsieur. Monsieur est trop bon. Monsieur ne sait pas. J'étais comme lui, d'ailleurs. Quand on a toujours vécu dans un monde qui se respecte, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens différents de nous. On croit que tout le monde est bien élevé. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les Sarrazinis, je ne voulais pas le dire pour ne pas leur faire de tort, appartiennent à la plus basse catégorie qui soit. Vous n'avez qu'à observer cette petite, ces sournois. Mais ça vous tuerait si ça vous pouvait. Ça vous hait. Ah, elle ne s'est pas cachée pour me le dire. J'ai toujours été une personne honorable, monsieur. Ce n'est pas pour ces Italiens que je changerai aujourd'hui. Mais vous ne faites pourtant rien de mal, madame, en habitant ici, pour tenir compagnie à une enfant. Tout de même, c'est une enfant, vous ne pouvez le nier. Monsieur, mais je vois que vous ne connaissez pas ces milieux. C'est à votre honneur, au mien également, car je ne les connais pas plus que vous. Tout ce monde couche dans la même chambre. Comment voulez-vous que les enfants conservent leur innocence? Charles ne tarda pas à deviner ce qui se passait dans l'esprit de Madame Chevasse. Son fils venait d'arriver en permission. Elle tenait à rester près de lui. Il lui était désagréable de penser qu'une autre prendrait sa place. Aussi cherchait-elle à persuader M. Benestaud de l'inutilité de sa bonté. D'ailleurs, Juliette n'était pas heureuse. Elle ne demandait qu'à partir. Habituée à être battue, elle aurait préféré des coups. Elle était incapable d'apprécier les soins dont on l'entourait. Victor, lui, les eût appréciés. À la vérité, Madame Chevasse était jalouse de Juliette. N'était-ce pas Victor qui eût bénéficié de l'intérêt de M. Benestaud? Bien, si vous ne pouvez pas rester, Madame Chevasse, je demanderai à quelqu'un d'autre de vous remplacer. Je ne peux pas mettre cet enfant à la rue. Elle n'a qu'à rester chez elle. Ils ont un logement. Elle fera sa cuisine. Que monsieur lui donne quelques pièces saines, je comprends, mais la prendre chez soi, la nourrir, lui raconter des histoires, c'est exagéré. Mais on ne peut pas laisser une enfant seule à un moment aussi tragique. Elle est capable de se laisser mourir de faim, de se tuer. Pensez donc. Vous n'avez qu'à demander au concierge de s'occuper d'elle. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre cet enfant? N'est rien. Je vois qui est monsieur, c'est pourquoi. Les sentiments de Madame Chevasse étaient de plus en plus visibles. Elle souffrait véritablement de l'intérêt que portait Charles à Juliette. La sonnette retentit. Bien, qui cela peut-il bien être? Dit Madame Chevasse, à qui il avait suffi d'une semaine pour se croire Madame Benestaud elle-même. Ah, mais comme je suis distraite, mais c'est mon fils. Vous permettez que j'aille ouvrir? Elle disparut. Charles entendit des chuchotements. Tout ce que lui avait dit cette femme lui avait causé une impression désagréable. Une telle bassesse, une telle cruauté, un tel orgueil réunis chez un même être, c'était presque monstrueux. Quelques instants plus tard, elle revenait, accompagnée d'un jeune soldat. Mon fils est venu me chercher. On lui a dit que j'étais chez vous. Monsieur m'excusera. Si j'avais su cela, j'aurais prié la concierge de ne pas le laisser monter. Pourquoi ne m'as-tu pas entendu en bas, Victor? Oh, mais cela ne fait rien. Je suis très content de connaître votre fils, répondit Monsieur Benestaud. Il avait deviné qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans ses explications. La mère et le fils s'étaient visiblement concertés. Le jeune Chevasse semblait avoir une haute idée de lui-même. C'était un jeune homme de taille moyenne, aux yeux bleus, à la moustache clairsemée, sur qui l'éducation maternelle avait lourdement pesé. Tant de soins avaient entouré son enfance que l'uniforme lui-même prenait sur lui l'aspect d'un chaud vêtement d'intérieur confectionné par sa mère. Il avait tellement entendu critiquer les gens imprévoyants, fantasques, prodigues, qu'il était plein de fierté d'être économe et sérieux. Enfin, de M. Benestaud, il était cependant un peu dérouté, comme sa mère d'ailleurs. Il ne savait que penser de cet homme qui, à certains indices, était justement un de ces êtres étranges qu'on lui avait appris à éviter et qui, d'autre part, représentait si dignement la bonne société. Aussi, se tenait-il sur la réserve? Vous êtes en permission? Demanda Charles. Oui, je suis arrivé ce matin à 9h40, répondit Victor avec une précision qui lui aurait été indispensable quand il parlait de lui. Vous allez vous reposer, sans doute. Mais nous avons, maman et moi, des amis, des parents à voir, notre oncle notamment. Vous vous plaisez à la caserne? Comme si c'était un deuxième, lui-même, qui était soldat, et que le premier, c'est-à-dire celui qui parlait, était toujours civil, il répondit avec un sourire qu'il voulait plein de finesse. Oh, je crois que jamais personne ne s'est beaucoup plu à la caserne. Ne dis pas cela, Victor, interrompit Madame Chevasse. Tu n'as qu'une année à faire, et tout le monde t'aime bien. On t'a demandé de devenir sergent. Est-ce que tu crois qu'on le demande à tout le monde? Dans ces conditions, c'est pas joli de se plaindre en les disant cela aux mauvaises têtes. Finalement, Madame Chevasse, suivie de son fils, se retira, mais en emportant ses effets personnels. Malgré la meilleure volonté, elle ne pouvait rester plus longtemps. Elle conseillait vivement à M. Benesteau, s'il ne voulait pas avoir d'ennui, de se débarrasser de Juliette. Elle consentait à lui rendre un dernier service, demander à ses concierges, les époux serruriers, de veiller sur la petite. Au moment de partir, Charles lui remit une enveloppe. Elle la prit, puis brusquement, comme si elle venait seulement de comprendre ce qu'on lui offrait, elle la rendit avec indignation. Vous vous trompez, monsieur Benesteau, dit-elle, comme si celui-ci avait essayé d'acheter sa vertu. Mais vous vous êtes dérangé, c'est la moindre des choses. Nous nous sommes dérangés tous les deux, monsieur Benesteau.
10. Quand Charles se retrouva seul, il réfléchit à ce qu'il convenait de faire. Si personne n'acceptait d'habiter chez lui, il ne pourrait faire autrement que de se séparer de Juliette, d'autant plus que Madame Chevasse, dans son dépit, n'allait pas manquer de le calomnier. Il lui fallait trouver immédiatement une femme de bonne volonté, ou bien reconduire l'enfant dans le sinistre taudis d'où il l'avait retiré. Finalement, il se décida à demander conseil à la grosse Madame Bichat. Avant de descendre, il se rendit dans la chambre de Juliette. Elle était assise sur le lit, les mains pendantes entre les jambes, le dos rond. Voyons, ma petite Juliette, ne reste pas à ne rien faire. Madame Chevasse est partie. Elle ne reviendra plus. Est-ce que cela te fait plaisir? Elle leva la tête et regarda M. Benesteau avec frayeur, comme si Madame Chevasse partie, elle était sans défense. Est-ce que tu préfères t'en aller ou rester? Elle ne répondit pas. Ben, je te demande cela gentiment. Si tu t'en vas, tu n'auras qu'à me dire tout ce que tu désires, je te le donnerai. Je ne veux pas te garder ici, malgré toi, si tu es malheureuse. C'est pour cela que je te pose cette question. Je veux bien rester, murmura Juliette, sans pourtant que la crainte peinte sur son visage disparût. Mais il faut pas avoir peur de moi. Je vais demander à une autre dame de s'occuper de toi, mais cette fois, ce sera une dame que tu aimeras bien. Maman? Oui, mais d'abord une autre. Charles se rendit chez Madame Bichat. C'était le jour de la lessive. La loge était pleine de vapeur, les vitres, la glace, la cheminée couvertes de buée. Bien, je viens vous demander, Madame Bichat, ce que je dois faire avec la petite. Madame Chevasse m'a conseillé de la ramener chez elle. Ah, cela ne m'étonne pas, c'est une vipère, cette femme, monsieur Benesteau. Faites ce que votre conscience vous ordonne. Eh bien, je garderai cette petite jusqu'au retour de la mer. Je ne peux pas faire autrement. D'ailleurs, c'est la moindre des choses. Oui, monsieur, vous avez raison. Mais monsieur Benesteau n'allait-il pas redevenir ce qu'il avait été naguère, un locataire poli et distant? Du jour où il n'hébergerait plus Juliette. Oui, mais je ne peux pas la surveiller seule, vous comprenez, madame Bichard. Eh bien, voulez-vous que je demande à mesdemoiselles Guillot, les blanchisseuses, les deux sœurs? Vous les connaissez? Ce sont des demoiselles d'un certain âge, très convenables, ayant beaucoup de cœur. Il y en aura toujours une qui sera libre. Quand elle voudra sortir le soir, elle se fera remplacer. À moins que vous ne preniez tout simplement une femme de ménage qui consente à coucher chez vous. Ce fut à cette dernière solution que s'arrêta Charles Benesto. Il y a une chose qui me surprend, écrivait-il le lendemain, cependant que Juliette faisait une visite à Madame Bichard, c'est que j'ai pu atteindre l'âge de 50 ans sans me rendre compte de toutes les faveurs dont j'ai bénéficié. Quand je vois le nombre de gens qui souffrent, de malheurs qui s'abattent sur eux, d'embûches qu'il faut vaincre, surmonter pour vieillir, et que je songe à ma vie, mais je suis confondu. On dirait qu'une main invisible s'est plu à me cacher tout ce qui aurait pu m'attrister. Je ne veux pas dire par là que j'ai vécu comme dans un rêve. J'ai ressenti de grandes peines, moi aussi. Mais c'était, si je peux m'exprimer ainsi, des peines prévues, auxquelles j'avais été préparé dès mon jeune âge. La mort de mon père, par exemple. Elle m'a causé un grand chagrin. Nous nous sommes réunis gravement, mes frères et moi. Des amis sont venus. Tout cela se passait comme au théâtre. Il y avait quelqu'un, il y a toujours eu quelqu'un dans la coulisse qui veillait à ce que les malheurs inévitables entrassent tout de suite dans le passé. Charles posa son porte-plume, se rendit dans la pièce voisine. Eugénie, la femme de ménage que Madame Bichard avait dénichée, impasse des ronces, s'était assise sur une chaise. Dans cette posture des gens qui ont terminé leur travail, mais qui ne peuvent partir avant une certaine heure. C'était une femme sans âge, sans aucun attrait physique, dont la grande préoccupation était, on le sentait, d'avoir l'air propre. Elle avait une camisole propre. Ses bas étaient propres. Ses mains également. Elle était sale pourtant. Elle était sale parce qu'elle n'avait plus de dents, parce qu'elle n'avait jamais inspiré, nous ne disons pas de l'amour, mais le plus petit sentiment à qui que ce fût. « Eh bien, Eugénie, qu'est-ce que vous faites ?» Elle se leva, surprise et inquiète. « J'attendais que monsieur me donne des ordres. Vous avez acheté ce qu'il faut pour le dîner ?»« Monsieur ne m'avait rien dit, je ne pouvais pas savoir ce que je devais faire. »« Et Juliette, où est-elle ?»« Oh, elle doit être chez la concierge. » Je vais descendre, mais restez assise, Eugénie. Je rapporterai des œufs, du pain et du lait. Charles descendit lentement l'escalier. Il pensait à ses frères, à sa femme, à ses amis, à tous ceux qu'il avait quittés. Pour ces apparences auxquelles ils attachent tant de prix, n'était-il pas astreint à un effort continuel qui leur cachait justement la poésie de la vie? Vous êtes seule, madame Bichard? Juliette n'est pas avec vous? Ah, vous ne la connaissez pas, la petite. Elle est sortie sans rien me dire. Elle était assise là, sur la malle, muette, dans l'attitude que vous lui connaissez. Et brusquement, elle a crié « Je m'en vais !» Et elle est partie. Oh, elle a dû rejoindre le Fichevasse, le long de la palissade du chemin de fer. On m'a dit qu'il se faisait des signaux par la fenêtre. Si jamais la mère l'apprend, ça va mal tourner. Son Victor, vous savez, c'est sa vie. À 10 heures, Juliette n'était pas encore rentrée. Eugénie s'était assoupie sur sa chaise. Charles l'apercevait de son cabinet de travail. Petit à petit, il était parvenu à se débarrasser de son amour de l'indépendance et à laisser les portes entrouvertes. L'état de veille lui donnait encore un certain éclat. Endormi sur une chaise avec sa tête si légère que le corps demeurait droit, elle n'était qu'un petit squelette. « Eugénie !» murmura Charles. Elle ne bougea pas. Il se leva alors, ouvrit doucement la porte de l'entrée pour ne pas réveiller la femme de ménage, et descendit chez la concierge. « Vous devriez, dit madame Bichard, Allez voir si Juliette n'est pas tout simplement retournée chez elle. Au fond, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Charles sourit. La soirée était délicieuse. La nuit venait de tomber et le jour tout proche, qu'elle venait de chasser, blanchissait encore un côté du ciel. Monsieur Benesteau hésita à s'engouffrer dans le sombre couloir au fond duquel était accrochée une lanterne. On entendait de la musique. L'ouvrier de la maison d'en face fumait sa pipe et crachait de temps en temps du quatrième étage sur le trottoir. Charles s'éloigna après tout. Juliette était libre. Comme il le faisait chaque soir, il se dirigea vers la gare Montparnasse. Il songeait aux dernières années qu'il avait passées boulevard de Clichy. Mais comment avait-il pu abandonner sa famille, ses amis, tout, jusqu'à ses lettres, jusqu'à ses poèmes de jeunesse? Chapitre 11. Il était minuit lorsqu'il revint rue de Vanves. Il sonna. Alors qu'il attendait d'habitude près d'un quart d'heure avant qu'on lui ouvrit, Madame Bichat, cette fois, tira le cordeau immédiatement. La loge était éclairée et la porte ouverte. Il venait à peine de faire quelques pas dans le couloir que la concierge appela. « Je vous attendais, » dit-elle sur un ton aigre. « La petite n'est pas rentrée, et le fils de Madame Chevasse non plus. Elle veut vous voir absolument, la pauvre femme. Elle croit que vous savez où ils sont. Il y a 10 minutes à peine qu'elle est partie. Elle a dû réveiller ses concierges. Allez voir si elle est chez eux. » Charles obéit. Madame Chevasse se trouvait en effet chez les époux serruriers. Le mari était déjà couché, mais pour qu'il pût prendre part à la conversation, le rideau de l'alcôve n'avait pas été tiré. On apercevait le vieillard perché sur son lit, adossé à plusieurs oreillers, le cou entouré d'un fichu. Dès que Madame Chevasse vit Charles, elle s'écria « Ah, il fallait bien qu'il vienne. Ah, vous voilà !» Sa voix tremblait. « Voyez ce qui est arrivé, c'est votre faute. Cette fille est une dévergondée. Tout le monde saura pourquoi je n'ai pas pu rester. C'est une honte. Un homme comme vous, qui se dit bien élevé, se conduire comme cela. Et c'est toujours la même chose. Ce ne sont pas deux, là, qui supportent les conséquences. Ce sont les innocents, les braves petits comme mon Victor. Mais où est-il, mon Victor? Mais on saura la vérité, vous m'entendez? » Madame Chevasse était hors d'elle. Elle criait, et le vieux concierge lui faisait signe de son lit de se calmer. C'était peine perdue. On lui avait rapporté que son fils avait été vu rue de la Gaîté en train de manger des crêpes avec Juliette. Elle aurait dû se méfier, le mettre en garde, car comment aurait-il pu se douter de lui-même que cette Juliette, sur laquelle on veillait avec tant de soin, était une coureuse? Ce Charles Benesteau n'allait tout de même pas faire croire aux gens que c'était par charité qu'il avait hébergé cette petite. D'ailleurs, elle, Madame Chevasse, avait remarqué certaines choses. N'avait-on pas essayé parfois de l'éloigner? Charles n'avait-il pas évité de répondre quand elle lui avait conseillé de se débarrasser de Juliette? Mais il était amoureux, c'était évident. Et cette petite, sous des airs douloureux, en profitait. Mais elle avait le diable au corps. Un beau garçon comme Victor l'amusait beaucoup plus. « Je ne comprends pas les reproches que vous me faites, » dit Charles pour répondre quelque chose. Son esprit était ailleurs. Il pensait à la situation ridicule où il se trouvait, à l'amertume qui l'aurait envahi s'il avait pris ses histoires au sérieux. Il était puni. Il avait souhaité le bien de Juliette. Il avait tout fait pour la sauver. Il n'avait pas réussi. C'était tout simplement qu'il n'avait pas mérité de réussir, qu'il n'était pas digne de sauver une de ses semblables. Pour réussir dans le bien, il faut se donner de la peine. Il n'y a rien de plus trompeur que la bonne intention, car elle donne l'illusion d'être le bien lui-même. Dans cette loge, sous le regard vitreux du vieux concierge, en face du Madame Chevas indigné, il venait d'apprendre cette vérité. « S'il arrive quelque chose à mon fils, vous m'entendez, monsieur, vous avez affaire à moi. Je ne suis qu'une simple femme, mais si on touche à ce que j'aime, à ce qui m'est le plus cher au monde, à Victor, je ne réponds plus de rien. » Madame Chevas venait à peine de prononcer ces mots lorsqu'on entendit un bruit de voix dans le couloir. Comme une folle, elle ouvrit la porte, cependant que M. Serrurier soulevait péniblement ses draps pour sortir du lit. Peu après, des cris parvinrent aux oreilles de Charles. Il sortit à son tour et reconnut à la lueur de la lanterne Juliette et le soldat. Madame Chevas tenait la petite d'une main. De l'autre, elle essayait de lui dégager le visage pour la gifler, cependant que Victor, penaud, essayait de se faufiler entre le mur et sa mère. « Je vais conduire immédiatement cette petite au commissariat. Elle ira rejoindre son père. C'est dans le sang de la famille. La mère prostituée et le père assassin. » Charles intervint à ce moment. « Écoutez-moi, Madame Chevas. Qu'avez-vous donc contre cet enfant? Vous n'avez pas le droit de la traiter comme vous le faites. Si quelqu'un dans cette affaire a quelque chose à perdre, c'est elle. » Ces paroles accrurent la colère de Madame Chevas. À différentes reprises, elle essaya de frapper la fillette. Soudain, celle-ci parvint à se dégager. Avant que personne n'eût pu la retenir, elle s'enfuit à toutes jambes, claquant derrière elle la porte d'entrée qui était restée ouverte. « Juliette, Juliette !» cria M. Benesteau. Il courut dans la rue. Elle était déserte. « Et vous n'avez pas honte d'avoir brutalisé cet enfant ?»« Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Et en disant ces mots, Madame Chevas tourna le dos à M. Benesteau. « Mais qu'est-ce que tu as donc fait, Victor ?» dit-elle avec une douceur inattendue. « Mais je n'ai rien fait, maman. Tu as écouté cette coureuse ?»« Mais non, maman. Elle n'a pas voulu t'entraîner ?» Madame Chevas n'entendit même pas la réponse de son fils. Elle le prit par les épaules, le serra contre elle. « Oh, tu es là, c'est tout ce que je demande. » Charles n'avait pas écouté ce court dialogue. Il était ressorti. De nouveau, il inspectait la rue. Il se souvint alors d'avoir entendu parler d'une certaine palissade de chemin de fer. Il prit la rue du château jusqu'au pont chevauchant les voies. Juliette errait peut-être dans ces parages. Mais où coucherait-elle? Qu'allait-elle devenir? Cette Madame Chevas était vraiment une femme odieuse. Comment pouvait-on savoir si peu de cœur? Comment pouvait-on s'acharner ainsi sur une fillette de 13 ans, sans défense, sur un être aussi inoffensif, même en admettant qu'il fût perverti? Seule la méchanceté, une méchanceté exceptionnelle, pouvait expliquer un tel entêtement. Comme la rue de Vanves, la rue du château était déserte. Charles s'arrêta sur le pont. La fumée d'une locomotive l'environnait parfois. Mais où était Juliette? Dans quel immonde allait-elle se réveiller demain? Comment finirait-elle? Elle passerait de main en main jusqu'au jour où on s'apercevrait qu'elle était mineure. Alors on l'enverrait dans une maison de correction. En sortant, elle recommencerait. Elle tomberait malade, elle ne se soignerait pas. Elle mourrait à 30 ans. Il y a donc des gens dont la destinée est aussi facile à prévoir. Il ne l'avait pas cru jusque-là. Chapitre 12. Quelques jours s'écoulèrent lorsqu'un matin, M. Benesteau trouva sous sa porte une lettre de son frère cadet. « Mon vieux Charles, écrivait Marc, je voudrais te voir. Passe à la boîte le jour que tu voudras, entre 11 heures et midi. À moins d'une raison exceptionnelle, tu es sûr de me trouver là. Cordialement à toi. » Le jour même, Charles se rendit rue du Helder. Il s'y rendit même avec un certain plaisir, tant il éprouvait de peine depuis le départ de la petite Juliette. Mais où était-elle à présent? Il ne lui connaissait aucun parent, aucun ami. Quant au voisin, à la suite de cette histoire, il lui battait froid, on ne sait pas pourquoi. Brusquement, plus personne ne lui avait adressé la parole. On semblait le considérer comme la cause de tous les malheurs de cet enfant. C'était dans un immeuble d'apparence assez quelconque, au premier étage, que se trouvaient les bureaux parisiens de la vieille maison Théo Benesto. Au temps où il avait vécu dans sa famille, Charles n'avait été que rarement rue du Helder. Cette porte qui déclenchait une sonnette, ses guichets grillagés, ses employés prisonniers devant lesquels on passait librement, tout cela lui avait toujours causé une impression désagréable. Il entra. L'appariteur était nouveau. Il ne savait pas que le visiteur était le frère de Marc. Il le conduisit dans un salon d'attente où il n'y avait que 6 vieux fauteuils de cuir. « Oh, excuse-moi de t'avoir fait attendre, » dit Marc un quart d'heure plus tard. « Mais c'est toujours comme ça. Il suffit qu'on dise qu'on est libre tous les jours à une certaine heure pour qu'on ne le soit plus. Ce matin, naturellement, pas une tuile. Allez, entre !» En disant ce dernier mot sur un tout autre ton que le reste, Marc, cependant qu'il poussait la seconde porte de son cabinet, celle qui était rembourrée, maintint du pied la première. Cela avec beaucoup d'aisance, habitué qu'il était à ce petit exercice. En entrant dans la pièce, Charles ne put cacher son étonnement. Elle n'avait plus rien de commun avec l'austère et poussiéreux cabinet de travail du vieux père. Si rien n'avait été changé dans les bureaux, dans le hall, si les lambris et les dorures y avaient été épargnés, pour ne pas effrayer la vieille clientèle, la base solide, comme disait Marc, le bureau directorial avait été transformé, repeint, vidé de ses classeurs, de ses paperasses, à peine meublé, mais avec des meubles de grand prix. Cette pièce surprenait dans un vieil immeuble. Au mur, il y avait quelques tableaux modernes de peintres passant pour géniaux dans le milieu de Marc, et sur la cheminée, ainsi que le remarqua tout de suite Charles, la terre cuite qu'il n'avait pas voulu emporter. « Tu la reconnais ?» dit Marc en riant. « Oh, je tiens à te dire tout de suite qu'elle est toujours à toi. J'ai demandé à ta femme, à ton ex-femme, pardon, de me la confier parce que j'ai pensé qu'elle ferait très bien ici. En effet, cela a de l'allure, n'est-ce pas? Une seule chose sur la cheminée, n'est-ce pas? Mais parfaite. C'est ça le vrai chic. D'ailleurs, comme tu peux le voir, je me suis soumis à cette règle, malgré les protestations de qui tu sais. Moi, tu comprends, je veux bien faire les choses, me charger des tâches les plus ingrates, mais à la condition qu'on m'obéisse. Tu sais ce qui arrive quand chacun veut commander? S'ils veulent commander, ils n'ont qu'à le faire. Moi, cela m'est égal. Mais qu'ils me préviennent, c'est tout ce que je leur demande. » Charles n'écoutait que distraitement son frère. Il se demandait ce que signifiait cet accueil. Que cachait-il? Pourquoi le recevait-on comme si rien ne s'était passé depuis un an? Comme s'il habitait toujours au boulevard de Clichy? Agissait-on ainsi par crainte qu'il ne demandât quelque chose? Avait-on décidé, au cours d'un conseil de famille, de s'incliner devant les fantaisies de Charles et de retourner, renouer en se gardant bien, toutefois, de donner au nouveau rapport trop d'intimité? Un fils Bugeaud n'était-il pas devenu chanteur de music-hall? Il n'y a que les grandes familles qui peuvent se permettre d'avoir un parent publiquement déchu. « Mais ce n'est pas tout cela, » continua Marc. « Je t'ai demandé de venir parce que j'avais à te parler. Tu sais que je vois très souvent Alberte, qui est une femme absolument charmante. Je le dis à tout le monde, je suis marié, j'aime d'aider. On peut donc pas me soupçonner de lui faire la cour. Eh bien, Alberte, au point de vue amitié, est parfaite. C'est la femme nette, droite, pleine de bon sens. Faut, je ne sais pas pourquoi je te parle de ses qualités, tu les connais mieux que moi. Non, je voulais te dire que je l'ai vue avant-hier. Nous avons dîné ensemble, avec Dédé, naturellement. On a un petit peu bu. C'est ce que c'est. On a parlé des gens qu'elle connaissait. Et c'est comme cela que la conversation est tombée sur toi. Eh bien, j'ai été vraiment étonné de voir l'affection qu'Albert a conservée pour toi. Je t'assure que je n'ai pas eu besoin de lui expliquer ce qui se passait dans ton cerveau, elle le savait. Faudrait tout de même que tu ailles la voir de temps en temps. Vous êtes restés de bons amis. Il n'y a aucune raison pour que tu rompes complètement. Oh, je l'ai vue il y a une quinzaine de jours. Mais elle me l'a dit. Elle croyait que tu allais revenir. C'est justement de ton indifférence qu'elle se plaint. Elle espérait que vos relations reprises, tu lui téléphonerais de temps en temps, que tu viendrais dîner par exemple. À ce moment, on frappa à la porte. Entrez, dit Marc. Un employé parut. Qu'est-ce que vous voulez, Paul? Excusez, monsieur, je croyais que vous étiez seul. Ne vous gênez pas, vous pouvez parler devant mon frère. Je viens au sujet de Crépin. Oh non, cette histoire est finie, vous n'allez pas recommencer. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai décidé tout à l'heure. Crépin m'a chargé de vous demander pardon. Il est père de 4 enfants. Sa femme est malade, il est obligé, quand il rentre le soir, de faire le ménage et la cuisine. Non, non, c'est pas la peine de m'essayer de m'attendrir. Je vous ai dit que je ne reviendrai pas sur ma décision. Crépin ne recommencera plus, monsieur. Je m'en porte garant. Si vous saviez dans quel état il est, vous auriez pitié de lui. Mais je ne peux rien. Je trouve même qu'il ne manque pas d'aplomb. C'est pas parce que je ne dépose pas de plainte qu'il doit se croire tout permis. Que s'est-il passé? Demanda Charles Benestaud. Ben, il s'est passé qu'un de mes employés, un certain Crépin, a pris 300 francs que le caissier avait laissé traîner sur une table. Il a été surpris au moment même où il les mettait dans sa poche. Il a avoué qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois, mais qu'il avait toujours rendu ce qu'il avait pris. Tout cela parce qu'il joue aux courses. Mais comment veux-tu garder un employé pareil? Il recommencera, il arrivera un jour où il ne pourra pas rembourser. Pour boucher un trou, il en fera un autre plus grand. Garder un pareil employé serait lui rendre un mauvais service. D'ailleurs, c'est impossible à présent. Tout le monde connaît l'histoire. S'il restait, ce serait tout le personnel qui s'en irait. Il faut être absolument fou pour ne pas le comprendre. Et en parlant, Marc s'était échauffé. Faites-le venir, ce crépin, dit-il à l'employé. Je vais lui demander s'il ne veut pas que je fasse conduire à Sainte-Anne. Peu après, l'employé revenait avec le nommé Crépin. Celui-ci était un homme de 45 ans, tout petit, mais très large de poitrine, la taille serrée dans un veston court et usé, rouge de teint, portant des chaussures à talons hauts. Il affectait un repentir qui ne lui allait pas plus qu'à un enfant turbulent. On imaginait mal cet homme débordant de vie, entouré de 4 enfants, d'une femme malade et faisant le ménage et la cuisine. Toute cette histoire sentait la comédie. Pourtant, Marc ne semblait pas s'en douter. Ah, vous voilà. Je vous ai fait venir pour qu'on vous voie. Est-ce que vous avez toute votre raison? Me le demande. Vous n'avez pas du tout l'air de vous rendre compte de la gravité de vos actes. Je vous renvoie et vous semblez mécontent, mais vous devriez me remercier. J'aurais pu vous faire arrêter sur le champ. Allez, allez-vous-en. Il y a 5 ans que je suis ici, monsieur. Jamais il n'a manqué un centime. J'ai toujours remis ce que je prenais dès que je touchais mes appointements. Dans ce cas-là, il ne fallait pas vous faire prendre. Vous ne devriez même pas insister. Mais quelle serait votre attitude vis-à-vis de vos collègues? Allez-vous-en, je ne veux plus discuter, c'est ridicule. Enfin, il se retira en se dandinant, suivi de l'autre employé. Peu après, Charles prenait congé de son frère. Mais avant de sortir, il se pencha à l'oreille de l'appariteur. Quelle est l'adresse de ce crépin? Une minute plus après, il se retrouvait rue du Helder. 11 rue des Récollets, répétait-il de temps en temps, pour ne pas oublier cette adresse. Chapitre 13. Comme il le faisait depuis le jour où Juliette s'était enfuie, il frappa à la porte de la loge, demanda s'il n'y avait rien de nouveau, avec l'espoir que l'enfant était revenu en son absence. Plus le temps passait, plus il s'inquiétait. Où était Juliette? Il se reprochait à présent d'avoir pas su lui inspirer confiance, d'avoir fait appel à Madame Chevas. Il monta lentement ses 4 étages. En ouvrant, il se rappela brusquement que Jenny habitait toujours chez lui. Elle était si heureuse qu'il n'avait pas osé la renvoyer. Elle couchait dans la pièce du fond et le jour, elle ne quittait pas la cuisine. Assis sur un escabeau, on n'y faisait rien. Les 3 pièces du logement lui semblaient un palais. Pouvait-on en effet les comparer au taudis qu'elle partageait avec une autre femme dans une impasse voisine? « Eh bien, Eugénie, qu'est-ce que vous faites ?»« J'attendais, monsieur, » dit-elle en se levant et en essuyant ses mains à son tablier. « Quoi qu'elle prétendît avoir travaillé dans les meilleures maisons, elle n'avait jamais servi. » C'était sans doute pour cela que son premier mouvement était toujours de tendre une main propre. « Mais vous n'êtes pas obligée, Eugénie, de rester toute la journée dans la cuisine. » Vous pouvez aller dans les 2 pièces du fond. Je ne vous dis pas d'aller dans la mienne, parce que il y a des papiers, des objets que vous pourriez déranger par mégarde. D'ailleurs, si vous ne touchez à rien, je vous autorise à y aller. Et puis, il faut sortir. N'ayez pas peur. On vous laissera rentrer. » La pauvre femme, comme l'avait deviné son maître, n'osait sortir de peur de trouver la porte close à son retour. « Merci, monsieur, merci. Vous êtes trop bon. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose tout de suite? Il faut me donner des ordres. C'est la moindre des choses. »« Eh bien, faites-moi une tasse de thé, Eugénie. » Charles s'assit devant sa table de travail. Il n'avait aucune envie d'écrire. Il était abattu, comme si ce jour d'août avait été un jour de printemps. Quand il était venu habiter rue de Vanves, il lui avait semblé qu'il ne s'ennuierait pas une minute, qu'il s'intéresserait à tout, qu'il interrogerait ses voisins, qu'il serait une fourmi dans une fourmilière, qu'il serait sympathique à tout le monde. Mais ce jour-là, en revenant de la rue du Helder, il avait le sentiment que tout était gris autour de lui, qu'aucune joie ne régnait nulle part. Et, ce qui était plus grave, qu'il n'avait même pas changé. Le courage dont il croyait avoir fait preuve en rompant avec le passé lui semblait à cette minute avoir été inutile. Marc ne venait-il pas de lui parler comme il l'avait toujours fait? Ses voisins, Madame Bichat, tous ces gens, ne refusaient-ils pas de le considérer comme un des leurs? « Eugénie ! » cria-t-il. La vieille femme parut avec une casserole à la main dans laquelle elle avait jeté le thé. « Asseyez-vous, Eugénie, restez un instant près de moi. » Elle obéit sans comprendre. Charles la regarda comme on regarde un bienfaiteur. Il avait envie de pleurer. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le boulevard de Clichy, il se sentait malheureux, mais vraiment malheureux. Comme il se souvenait d'avoir été au temps où Théo Benesto vivait encore. La fenêtre était ouverte. Il regarda le ciel couvert dont les nuages avaient des reflets argentés et tous ces moucherons, ces oiseaux qui passaient et repassaient sans cesse devant ses yeux. Il tourna de nouveau la tête vers Eugénie. Aucune destinée ne pouvait être plus humble que celle de cette femme. « Je voudrais, dit-il, que vous vous plaisiez ici. »« Mais je me plais beaucoup, » répondit-elle. Mais comment se faisait-il que cette femme de 60 ans, dont le nez était cassé de naissance, dont les joues minces s'enfonçaient dans la cavité de la bouche, comment se faisait-il qu'une pareille femme eût un maintien et des airs de fillette? Quand elle avait répondu en minaudant inconsciemment « Mais je me plais beaucoup !» Charles, un instant, avait entrevu la fraîche enfant qu'avait été cette ruine. Sur la fin de l'après-midi, Charles se ressaisit. Il écrivit 2 pages sur ses souvenirs de lycée, puis s'accouda à la fenêtre. En se penchant, il voyait les passants, les stores, les automobiles. « Oh, je vais aller faire un tour avant le dîner, » pensa-t-il. Lorsqu'il rentra 2 heures plus tard, quel ne fut pas son étonnement de voir un attroupement devant la maison contiguë à la sienne, celle habitée par Madame Chevasse. Juliette est peut-être de retour, se dit-il. Il se fraya un passage jusqu'à la porte. Il y avait également du monde dans le couloir. Malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à faire un pas de plus. Il interrogea ses voisins. Selon certains, on avait trouvé le cadavre d'une vieille femme assassinée dans son lit. Selon d'autres, un bébé de 2 ans était tombé du 5e étage dans la cour. Son père le tenait dans un de ses bras. Le bébé avait donné un coup de rein et était tombé en arrière, juste par-dessus la barre d'appui. Selon d'autres encore, il y avait eu tout simplement le feu. Charles Benesteau rentra chez lui. Au moment où il ouvrit la porte, Jenny s'approcha. « Elle est là !» dit-elle en désignant la chambre du fond. « Juliette ?»«
Oui, oui, oui !»
Charles se rendit sur le champ dans cette pièce. Juliette était assise sur le lit. Sa robe propre et fripée semblait avoir été lavée dans une rivière. « Mais où étais-tu ?»«
Chez une amie. »
Charles n'eut pas le loisir de l'interroger plus longtemps. Madame Bichat arrivait aux nouvelles. Elle avait vu monter Juliette, mais elle n'avait pas vu son locataire.
Oui, dit-elle, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Je savais bien qu'elle reviendrait. Si vous pensez qu'elle se gênait quand ses parents étaient là, pour disparaître pendant plusieurs jours. Elle est du midi, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là n'ont pas le même sang que nous. »
Le soir, ce fut Charles Benesteau lui-même qui prépara le lit de l'enfant. Puis il se retira dans sa chambre, éteignit la lumière, s'allongea, mais ne s'endormit pas.